Albertine disparue, chapitre 4. Nouvel aspect de Robert de Saint-Loup. Oh, c'est inouï, me dit ma mère. Écoute, on ne s'étonne plus de rien à mon âge. Mais je t'assure qu'il n'y a rien de plus inattendu que la nouvelle que m'annonce cette lettre. « Écoute bien, répondis-je, je ne sais pas ce que c'est, mais, si étonnant que cela puisse être, cela ne peut pas l'être autant que ce que m'apprend celle-ci. C'est un mariage. C'est Robert de Saint-Loup qui épouse Gilberte Swann. « Ah ! » me dit ma mère. « Alors, c'est sans doute ce que m'annonce l'autre lettre. » Celle que je n'ai pas encore ouverte, car j'ai reconnu l'écriture de ton ami. » Et ma mère me sourit avec cette légère émotion dont, depuis qu'elle avait perdu sa mère, se revêtait pour elle tout événement, si mince qu'il fût, qui intéressait des créatures humaines capables de douleurs, de souvenirs, et ayant, elles aussi, leur mort. Ainsi ma mère me sourit et me parla d'une voix douce, comme si elle eût craint, en traitant légèrement ce mariage, de méconnaître ce qu'il pouvait éveiller d'impressions mélancoliques chez la fille et la veuve de Swann, chez la mère de Robert, prête à se séparer de son fils, et auquel ma mère, par bonté, par sympathie à cause de leur bonté pour moi, prêtait sa propre émotivité filiale, conjugale et maternelle. Avais-je raison de te dire que tu ne trouverais rien de plus étonnant ? Lui dis-je. Eh bien si, répondit-elle d'une voix douce, c'est moi qui détiens la nouvelle la plus extraordinaire. Je ne te dirai pas la plus grande, la plus petite, car cette situation de Sévigné, faite par tous les gens qui ne savent que cela d'elle, écœurait ta grand-mère, autant que la jolie chose que c'est de fumer. Nous ne daignons pas ramasser ce Sévigné de tout le monde. Cette lettre-ci m'annonce le mariage du petit Cambremer. « Tiens, » dis-je avec indifférence, « avec qui ? » Mais en tout cas, la personnalité du fiancé ôte déjà à ce mariage tout caractère sensationnel. À moins que celle de la fiancée ne le lui donne. Et qui est cette fiancée ? Ah, si je te dis tout de suite, il n'y a pas de mérite. Voyons, cherche un peu, me dit ma mère, qui, voyant qu'on n'était pas encore à Turin, voulait me laisser un peu de pain sur la planche et une poire pour la soif. Mais comment veux-tu que je sache? Est-ce avec quelqu'un de brillant? Si le Grandin et sa sœur sont contents, nous pouvons être sûrs que c'est un mariage brillant. Le Grandin, je ne sais pas. Mais la personne qui m'annonce le mariage dit que Madame de Cambremer est ravie. Je ne sais pas si tu appelleras cela un mariage brillant. Moi, cela me fait l'effet d'un mariage du temps où les rois épousaient les bergères. Et encore, la bergère est-elle moins qu'une bergère? Mais d'ailleurs charmante. Cela eût stupéfié ta grand-mère et ne lui eût pas déplu. Mais enfin, qui est-ce, cette fiancée? C'est Mademoiselle d'Oloron. Cela m'a l'air immense, et pas bergère du tout, mais je ne vois pas qui cela peut être. C'est un titre qui était dans la famille des Guermantes. Justement, et Monsieur de Charlus l'a donné, en l'adoptant, à la nièce de Jupien. C'est elle qui épouse le petit Cambremer. La nièce de Jupien? Ce n'est pas possible! C'est la récompense de la vertu. C'est un mariage à la fin d'un roman de Madame Sand, dit ma mère. C'est le prix du vice. C'est un mariage à la fin d'un roman de Balzac, pensais-je. Après tout, dis-je à ma mère, en y réfléchissant, c'est assez naturel. Voilà les Cambremer ancrés dans ce clan des Guermantes où ils n'espéraient pas pouvoir jamais planter leur tente. De plus, la petite, adoptée par Monsieur de Charlus, aura beaucoup d'argent. ce qui était indispensable depuis que les Cambremer ont perdu le leur. Et en somme, elle est la fille adoptive et, selon les Cambremer, probablement la fille véritable. La fille naturelle. De quelqu'un qu'il considère comme un prince du sang. Un bâtard de maison presque royale, cela a toujours été considéré comme une alliance flatteuse par la noblesse française et étrangère. Sans remonter même si loin, tout près de nous, pas plus tard qu'il y a 6 mois. Tu te rappelles le mariage de l'ami de Robert avec cette jeune fille dont la seule raison d'être sociale était qu'on la supposait, à tort ou à raison, fille naturelle d'un prince souverain. Ma mère, tout en maintenant le côté caste de Combray, qui eût fait que ma grand-mère eût dû être scandalisée de ce mariage, voulant avant tout montrer la valeur du jugement de sa mère, ajouta. D'ailleurs, la petite est parfaite, et ta chère grand-mère n'aurait pas eu besoin de son immense bonté, de son indulgence infinie, pour ne pas être sévère au choix du jeune Cambremer. Te souviens-tu combien elle avait trouvé cette petite distinguée, il y a bien longtemps, un jour qu'elle était entrée se faire recoudre sa jupe? Ce n'était qu'une enfant, alors. Et maintenant, bien que très montée en graines et vieille fille, elle est une autre femme, 1000 fois plus parfaite. Mais ta grand-mère, d'un coup d'œil, avait discerné tout cela. Elle avait trouvé la petite nièce d'un giletier plus noble que le duc de Guermantes. Mais plus encore que louer grand-mère, il fallait à ma mère trouver mieux pour elle qu'elle ne fût plus là. C'était la suprême finalité de sa tendresse, et comme si cela lui épargnait un dernier chagrin. « Et pourtant, crois-tu tout de même ?» me dit ma mère. « Si le père Swann, que tu n'as pas connu, il est vrai, avait pu penser qu'il aurait un jour un arrière-petit-fils ou une arrière-petite-fille, où coulerait confondu le sang de la mère Mosée qui disait « Bonjour, messieurs !» et le sang du duc de Guise. « Mais remarque, maman, que c'est beaucoup plus étonnant que tu ne dis, car les Swann étaient des gens très bien, et avec la situation qu'avait leur fils, sa fille, s'il avait fait un bon mariage, aurait pu en faire un très beau. Mais tout était retombé à pied d'œuvre, puisqu'il avait épousé une cocotte. « Oh, une cocotte, tu sais, on était peut-être méchant, je n'ai jamais tout cru. »« Si, une cocotte. Je te ferai même des révélations sensationnelles un autre jour. » Perdue dans sa rêverie, ma mère disait « La fille d'une femme que ton père n'aurait jamais permis que je salue, épousant le neveu de madame de Villeparisis, que ton père ne me permettait pas, au commencement, d'aller voir, parce qu'il la trouvait d'un monde trop brillant pour moi. » Puis, « Le fils de madame de Cambremer, pour qui le grandin craignait tant d'avoir à nous donner une recommandation, parce qu'il ne nous trouvait pas assez chic, épousant la nièce d'un homme qui n'aurait jamais osé monter chez nous que par l'escalier de service. Tout de même, ta grand-mère avait raison. Tu te rappelles? Quand elle disait que la grande aristocratie faisait des choses qui choqueraient de petits bourgeois, et que la reine Marie-Amélie lui était gâtée par les avances qu'elle avait faites à la maîtresse du prince de Condé pour qu'elle le fît tester en faveur du duc d'Aumale. Tu te souviens? Elle était choquée que, depuis des siècles, des filles de la maison de Gramont, qui furent de véritables saintes, aient porté le nom de Corisande en mémoire de la liaison d'une aïeule avec Henri IV. Ce sont des choses qui se font peut-être aussi dans la bourgeoisie, mais on les cache davantage. Crois-tu que cela l'eût amusé, ta pauvre grand-mère ? Disait maman avec tristesse. Car les joies dont nous souffrions que ma grand-mère fût écartée, c'étaient les joies les plus simples de la vie. Une nouvelle, une pièce, moins que cela, une imitation, qui l'eussent amusée. Crois-tu qu'elle eût été étonnée ? Je suis sûre pourtant que cela eût choqué ta grand-mère, ses mariages, que cela lui eût été pénible. Je crois qu'il vaut mieux qu'elle ne les ait pas su. Reprit ma mère, car en présence de tout événement, elle aimait à penser que ma grand-mère en eût reçu une impression toute particulière, qui eût tenu à la merveilleuse singularité de sa nature et qui avait une importance extraordinaire. Devant tout événement triste qu'on eût pu prévoir autrefois, la disgrâce ou la ruine d'un de nos vieux amis, quelque calamité publique, une épidémie, une guerre, une révolution, ma mère se disait que peut-être valait-il mieux que grand-mère n'eût rien vu de tout cela, que cela lui eût fait trop de peine, que peut-être elle n'eût pu le supporter. Et quand il s'agissait d'une chose choquante comme celle-ci, ma mère, par le mouvement du cœur inverse de celui des méchants, qui se plaisent à supposer que ceux qu'ils n'aiment pas ont plus souffert qu'on ne croit, ne voulait pas, dans sa tendresse pour ma grand-mère, admettre que rien de triste, de diminuant, eût pu lui arriver. Elle se figurait toujours ma grand-mère comme au-dessus des atteintes même de tout mal qui n'eût pas dû se produire, et se disait que la mort de ma grand-mère avait peut-être été, en somme, un bien en épargnant le spectacle trop laid du temps présent à cette nature si noble qui n'aurait pas su s'y résigner. Car l'optimisme est la philosophie du passé. Les événements qui ont eu lieu étant, entre tous ceux qui étaient possibles, les seuls que nous connaissions, le mal qu'ils ont causé nous semble inévitable, et le peu de bien qu'ils n'ont pas pu ne pas amener avec eux, c'est à eux que nous en faisons honneur, et nous nous imaginons que sans eux, il ne se fût pas produit. Mais elle cherchait en même temps à mieux deviner ce que ma grand-mère eût éprouvé en apprenant ces nouvelles, et à croire en même temps que c'était impossible à deviner pour nos esprits moins élevés que le sien. « Crois-tu ? » me dit d'abord ma mère. « Combien ta pauvre grand-mère eût été étonnée ! » Et je sentais que ma mère souffrait de ne pas pouvoir le lui apprendre, regrettait que ma grand-mère ne pût le savoir, et trouvait quelque chose d'injuste à ce que la vie amena toujours des faits que ma grand-mère n'aurait pu croire, rendant ainsi rétrospectivement la connaissance que celle-ci avait emportée des êtres et de la société, fausse et incomplète. Le mariage de la petite Jupien avec le neveu de Legrandin ayant été de nature à modifier les notions générales de ma grand-mère, autant que la nouvelle, si ma mère avait pu la lui faire parvenir, qu'on était arrivé à résoudre le problème, cru par ma grand-mère insoluble, de la navigation aérienne et de la télégraphie sans fil. Le train entrait en gare de Paris que nous parlions encore avec ma mère de ces deux nouvelles, que, pour que la route ne me parût pas trop longue, elle eût voulu réserver pour la seconde partie du voyage, et ne m'avait laissé apprendre qu'après Milan. Et ma mère continuait quand nous fûmes entrés à la maison. « Crois-tu, ce pauvre Swann qui désirait tant que sa Gilberte fût reçue chez les Guermantes, serait-il assez heureux s'il pouvait voir sa fille devenir une Guermante ?»« Sous un autre nom que le sien, conduite à l'hôtel comme mademoiselle de Forcheville, crois-tu qu'il en serait si heureux ?»« Ah, c'est vrai, je n'y pensais pas. C'est ce qui fait que je ne peux pas me réjouir pour cette petite rosse. Cette pensée qu'elle a eue, le cœur de quitter le nom de son père, qui était si bon pour elle.
Oui, tu as raison, tout compte fait. Il est peut-être mieux qu'il ne l'ait pas su.
Tant pour les morts que pour les vivants, on ne peut savoir si une chose leur ferait plus de joie ou plus de peine.
Il paraît que les Saint-Loup vivront à Tansonville. Le père Swann, qui désirait tant montrer son étang à ton pauvre grand-père, aurait-il jamais pu supposer que le duc de Guermantes le verrait souvent, surtout s'il avait su le mariage de son fils?
Enfin, toi qui as tant parlé à Saint-Loup des épines roses, des lilas et des iris de Tansonville, il te comprendra mieux. C'est lui qui les possédera. Ainsi se déroulait dans notre salle à manger, sous la lumière de la lampe dont elles sont amies, une de ces causeries où la sagesse, non des nations mais des familles, s'emparant de quelque événement, mort, fiançailles, héritage, ruine,
et le glissant sous le verre grossissant de la mémoire, lui donne tout son relief, dissocie, recule une surface, et situe en perspective, à différents points de l'espace et du temps, ce qui, pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, semble amalgamé sur une même surface. Les noms des décédés, les adresses successives, les origines de la fortune et ses changements, les mutations de propriété. Cette sagesse-là n'est-elle pas inspirée par la muse qu'il convient de méconnaître le plus longtemps possible, si l'on veut garder quelque fraîcheur d'impression et quelque vertu créatrice, mais que ceux-là même qui l'ont ignoré rencontrent au soir de leur vie dans la nef de la vieille église provinciale, à l'heure où tout à coup ils se sentent moins sensibles à la beauté éternelle exprimée par les sculptures de l'autel qu'à la conception des fortunes diverses qu'elles subirent, passant dans une illustre collection particulière, dans une chapelle, de là dans un musée, puis ayant fait retour à l'église. Ou qu'à sentir, quand ils y foulent un pavé presque pensant, qu'ils recouvrent la dernière poussière d'Arnaud ou de Pascal. Ou tout simplement qu'à déchiffrer, imaginant peut-être l'image d'une fraîche paroissienne sur la plaque de cuivre du prie-dieu de bois, les noms des filles du haut bureau ou du notable. La muse qui a recueilli tout ce que les muses plus hautes de la philosophie et de l'art ont rejeté, tout ce qui n'est pas fondé en vérité, tout ce qui n'est que contingent, mais révèle aussi d'autres lois, c'est l'histoire. Ce que je devais apprendre par la suite, car je n'avais pu assister à tout cela de Venise, c'est que Mademoiselle de Forcheville avait été demandée d'abord par le prince de Silistrie, cependant que Saint-Loup cherchait à épouser Mademoiselle d'Entragues, fille du duc de Luxembourg. Voici ce qui s'était passé. Mademoiselle de Forcheville ayant 100 millions, Madame de Marsante avait pensé que c'était un excellent mariage pour son fils. Elle eut le tort de dire que cette jeune fille était charmante, qu'elle ignorait absolument si elle était riche ou pauvre, qu'elle ne voulait pas le savoir, mais que, même sans dot, ce serait une chance pour le jeune homme le plus difficile d'avoir une femme pareille. C'était beaucoup d'audace pour une femme tentée seulement par les 100 millions qui lui fermaient les yeux sur le reste. Aussitôt, on comprit qu'elle y pensait pour son fils. La princesse de Silistrie jeta partout les hauts cris, se répandit sur les grandeurs de Saint-Loup et clama que si Saint-Loup épousait la fille d'Odette et d'un juif, il n'y avait plus de faubourg Saint-Germain. Madame de Marsante, si sûre d'elle-même qu'elle fût, n'osa pas pousser alors plus loin et se retira devant les cris de la princesse de Silistrie, qui fit aussitôt faire la demande pour son propre fils. Elle n'avait crié qu'afin de se réserver Gilberte. Cependant, Madame de Marsante, ne voulant pas rester sur un échec, s'était aussitôt tournée vers Mademoiselle d'Entragues, fille du duc de Luxembourg. N'ayant que 20 millions, celle-ci lui convenait moins. Mais elle dit à tout le monde qu'un Saint-Loup ne pouvait épouser une Mademoiselle Swann. Il n'était même plus question de Forcheville. Quelque temps après, quelqu'un disant étourdiment que le duc de Châtellerault pensait à épouser Mademoiselle d'Entragues, Madame de Marsante, qui était pointilleuse plus que personne, le prit de haut, changea ses batteries, revint à Gilberte, fit faire la demande pour Saint-Loup, et les fiançailles eurent lieu immédiatement. Ces fiançailles excitèrent de vifs commentaires dans les mondes les plus différents. D'anciennes amies de ma mère, plus ou moins de Combray, vinrent la voir pour lui parler du mariage de Gilberte, lequel ne les éblouissait nullement. « Vous savez ce que c'est que Mademoiselle de Forcheville ? C'est tout simplement Mademoiselle Swann, et le témoin de son mariage, le baron de Charlus, comme il se fait appeler, c'est ce vieux qui entretenait déjà la mer autrefois au vu et au su de Swann qui y trouvait son intérêt. « Mais qu'est-ce que vous dites ?» protestait ma mère. « Swann, d'abord, était extrêmement riche.
Il faut croire qu'il ne l'était pas tant que ça pour avoir besoin de l'argent des autres. Mais qu'est-ce qu'elle a donc, cette femme-là, pour tenir ainsi ses anciens amants? Elle a trouvé le moyen de se faire épouser par le troisième et elle retire à moitié de la tombe le deuxième pour qu'il serve de témoin à la fille qu'elle a eue du premier ou d'un autre, car comment se reconnaître dans la quantité? Elle n'en sait plus rien elle-même. Je dis le troisième, c'est le 300e qu'il faudrait dire. Du reste, vous savez que si elle n'est pas plus forcheville que vous et moi, cela va bien avec le mari, qui naturellement n'est pas noble. Vous pensez bien qu'il n'y a qu'un aventurier pour épouser cette fille-là. Il paraît que c'est un monsieur Dupont ou Durand quelconque. S'il n'y avait pas maintenant un maire radical à Combray qui ne salue même pas le curé, j'aurais su le fin de la chose. Parce que, vous comprenez bien, quand on a publié les bans, il a bien fallu dire le vrai nom. C'est très joli pour les journaux ou pour le papetier qui envoie les lettres de faire part de se faire appeler le marquis de Saint-Loup. Ça ne fait mal à personne. Et si ça peut leur faire plaisir à ces bonnes gens, ce n'est pas moi qui y trouverai à redire. En quoi ça peut-il me gêner? Comme je ne fréquenterai jamais la fille d'une femme qui a fait parler d'elle, elle peut bien être marquise long comme le bras pour ses domestiques. Mais dans les actes de l'état civil, ce n'est pas la même chose. Ah, si mon cousin Sazerat était encore premier adjoint, je lui aurais écrit. À moi, il m'aurait dit sous quel nom il avait fait faire les publications. D'autres amis de ma mère, qui avaient vu Saint-Loup à la maison, vinrent à son jour et s'informèrent si le fiancé était bien celui qui était mon ami. Certaines personnes allaient jusqu'à prétendre, en ce qui concernait l'autre mariage, qu'il ne s'agissait pas des Cambremer le Grandin. On le tenait de bonne source, car la marquise, née le Grandin, l'avait démenti la veille même du jour où les fiançailles furent publiées. Je me demandais de mon côté pourquoi M. de Charlus d'une part, Saint-Loup de l'autre, lesquels avaient eu l'occasion de m'écrire peu auparavant, m'avaient parlé de projets amicaux et de voyages dont la réalisation eût dû exclure la possibilité de ces cérémonies, et ne m'avaient rien dit. J'en concluais, sans songer aux secrets que l'on garde jusqu'à la fin sur ces sortes de choses, que j'étais moins leur ami que je n'avais cru. Ce qui, pour ce qui concernait Saint-Loup, me peinait. Aussi, pourquoi, ayant remarqué que l'amabilité, le côté plein pied, père à compagnon de l'aristocratie, était une comédie, m'étonnais-je d'en être excepté? Dans la maison de femmes, où on me procurait de plus en plus des hommes, où M. de Charlus avait surpris Morel, et où la sous-maîtresse, grande lectrice du Gaulois, commentait les nouvelles mondaines, cette patronne, parlant à un gros monsieur qui venait chez elle, sans arrêter, boire du champagne avec des jeunes gens, parce que, déjà très gros, il voulait devenir assez obèse pour être certain de ne pas être pris si jamais il y avait une guerre, déclara. Il paraît que le petit Saint-Loup est comme ça, et le petit Cambremer aussi. Pauvres épouses. En tout cas, si vous connaissez ses fiancés, il faut nous les envoyer. Ils trouveront ici tout ce qu'ils voudront, et il y a beaucoup d'argent à gagner avec eux. Sur quoi le gros monsieur, bien qu'il fût lui-même comme ça, se récria, répliqua, étant un peu snob, qu'il rencontrait souvent Cambremer et Saint-Loup chez ses cousins d'Ardouvillers, et qu'ils étaient grands amateurs de femmes, et tout le contraire de ça. « Ah !» conclut la sous-maîtresse d'un ton sceptique, mais ne possédant aucune preuve, et persuadée qu'en notre siècle, la perversité des mœurs le disputait à l'absurdité calomniatrice des cancans. Certaines personnes que je ne vis pas m'écrivirent et me demandèrent ce que je pensais de ces deux mariages, absolument comme si elles eussent ouvert une enquête sur la hauteur des chapeaux des femmes au théâtre ou sur le roman psychologique. Je n'eus pas le courage de répondre à ces lettres. De ces deux mariages, je ne pensais rien, mais j'éprouvais une immense tristesse,
comme quand deux parties de votre existence passée, amarrées auprès de vous, et sur lesquelles on fonde peut-être paresseusement au jour le jour quelque espoir inavoué, s'éloignent définitivement, avec un claquement joyeux de flammes, pour des destinations étrangères, comme deux vaisseaux. Pour les intéresser eux-mêmes, ils eurent à l'égard de leur propre mariage une opinion bien naturelle, puisqu'il s'agissait non des autres, mais d'eux. Ils n'avaient jamais eu assez de raillerie pour ces grands mariages fondés sur une tare secrète. Et même les Cambremer, de maisons si anciennes et de prétentions si modestes, eussent été les premiers à oublier Jupien et à se souvenir seulement des grandeurs inouïes de la maison d'Oloron, si une exception ne s'était produite en la personne qui eût dû être le plus flattée de ce mariage, la marquise de Cambremer-le-Grandin. Mais, méchante de nature, elle faisait passer le plaisir d'humilier les siens avant celui de se glorifier elle-même. Aussi, n'aimant pas son fils, et ayant au fait de prendre en grippe sa future belle-fille, déclara-t-elle qu'il était malheureux pour un Cambremer d'épouser une personne qui sortait on ne savait d'où, en somme, et avait des dents si mal rangées. Quant au jeune Cambremer, qui avait déjà une certaine propension à fréquenter des gens de lettres, on pense bien qu'une si brillante alliance n'eut pas pour effet de le rendre plus snob, mais que, se sentant maintenant le successeur des ducs d'Oloron, prince souverain, comme disaient les journaux, il était suffisamment persuadé de sa grandeur pour pouvoir frayer avec n'importe qui. Et il délaissa la petite noblesse pour la bourgeoisie intelligente, les jours où il ne se consacrait pas aux altesses. Les notes des journaux, surtout en ce qui concernait Saint-Loup, donnèrent à mon ami, dont les ancêtres royaux étaient énumérés, une grandeur nouvelle, mais qui ne fit que m'attrister, comme s'il était devenu quelqu'un d'autre, le descendant de Robert le Fort, plutôt que l'ami qui s'était mis si peu de temps auparavant sur le strapontin de la voiture afin que je fusse mieux au fond. Le fait de n'avoir pas soupçonné d'avance son mariage avec Gilberte, dont la réalité m'était apparue soudain dans une lettre si différente de ce que je pouvais penser de chacun d'eux la veille, et qu'il ne m'eût pas averti, me faisait souffrir, alors que j'eusse dû penser qu'il avait eu beaucoup à faire, et que, d'ailleurs, dans le monde, les mariages se font souvent ainsi tout d'un coup, fréquemment pour se substituer à une combinaison différente qui a échoué, inopinément, comme un précipité chimique. Et la tristesse, morne comme un déménagement, amère comme une jalousie, que me causèrent, par la brusquerie, par l'accident de leur choc, ces deux mariages, fut si profonde que plus tard on me la rappela, en m'en faisant absurdement gloire, comme ayant été tout le contraire de ce qu'elle fut au moment même, un double, triple et même quadruple pressentiment. Les gens du monde, qui n'avaient fait aucune attention à Gilberte, me dirent d'un air gravement intéressé « Ah, c'est elle qui épouse le marquis de Saint-Loup ?» Et jetai sur elle le regard attentif des gens non seulement friands des événements de la vie parisienne, mais aussi qui cherchent à s'instruire et croient à la profondeur de leur regard. Ceux qui n'avaient, au contraire, connu que Gilberte, regardèrent Saint-Loup avec une extrême attention. Me demandèrent, souvent des gens qui me connaissaient à peine, de les présenter, et revenaient de la présentation aux fiancés, parés des joies de la fatuité, en me disant « Il est très bien de sa personne ». Gilberte était convaincue que le nom de marquis de Saint-Loup était plus grand mille fois que celui de duc d'Orléans. Il paraît que c'est la princesse de Parme qui a fait le mariage du petit Cambremer, me dit maman. Et c'était vrai. La princesse de Parme connaissait depuis longtemps, par les œuvres, D'une part, le Grandin, qu'elle trouvait un homme distingué, de l'autre, Madame de Cambremer, qui changeait la conversation, quand la princesse lui demandait si elle était bien la sœur de Le Grandin. La princesse savait le regret qu'avait Madame de Cambremer d'être restée à la porte de la haute société aristocratique, où personne ne la recevait. Quand la princesse de Parme, qui s'était chargée de trouver un parti pour Mademoiselle d'Oloron, demanda à Monsieur de Charlus s'il savait qui était un homme aimable et instruit qui s'appelait Le Grandin de mes églises, c'était ainsi que se faisait appeler maintenant Le Grandin. Le baron répondit d'abord que non. Puis tout d'un coup, un souvenir lui revint d'un voyageur avec qui il avait fait connaissance en wagon une nuit et qui lui avait laissé sa carte. Il eut un vague sourire. « C'est peut-être le même, » se dit-il. Quand il apprit qu'il s'agissait du fils de la sœur de Le Grandin, il dit « Tiens, ce serait vraiment extraordinaire. S'il tenait de son oncle, après tout, ce ne serait pas pour m'effrayer. J'ai toujours dit qu'il faisait les meilleurs maris. »« Qui, il ?» demanda la princesse. « Oh, madame, je vous expliquerai bien si nous nous voyions plus souvent. Avec vous, on peut causer. Votre Altesse est si intelligente. » dit Charlus, pris d'un besoin de confidence qui pourtant n'alla pas plus loin. Le nom de Cambremer lui plut, bien qu'il n'aimât pas les parents, mais il savait que c'était une des quatre baronnies de Bretagne et tout ce qu'il pouvait espérer de mieux pour sa fille adoptive. C'était un nom vieux, respecté, avec de solides alliances dans sa province. Un prince eût été impossible et, d'ailleurs, peu désirable. C'était ce qu'il fallait. La princesse fit ensuite venir Le Grandin. Il avait physiquement passablement changé, et assez à son avantage, depuis quelque temps. Comme les femmes qui sacrifient résolument leur visage à la sveltesse de leur taille et ne quittent plus Marienbad, Le Grandin avait pris l'aspect désinvolte d'un officier de cavalerie. Au fur et à mesure que Monsieur de Charlus s'était alourdi et abruti, Le Grandin était devenu plus élancé et rapide, effet contraire d'une même cause. Cette vélocité avait d'ailleurs des raisons psychologiques. Il avait l'habitude d'aller dans certains mauvais lieux où il aimait qu'on ne le vît ni entrer ni sortir. Il s'y engouffrait. Le Grandin s'était mis au tennis à 55 ans. Quand la princesse de Parme lui parla des Guermantes, de Saint-Loup, il déclara qu'il les avait toujours connus, faisant une espèce de mélange entre le fait d'avoir toujours connu de nom les châtelains de Guermantes et d'avoir rencontré, chez ma tante, Swann, le père de la future Madame de Saint-Loup. Swann, dont Le Grandin, d'ailleurs, ne voulait à Combray fréquenter ni la femme ni la fille. J'ai même voyagé dernièrement avec le frère du duc de Guermantes, Monsieur de Charlus. Il a spontanément engagé la conversation, ce qui est toujours bon signe, car cela prouve que ce n'est ni un sot gourmé ni un prétentieux. Oh, je sais tout ce qu'on dit de lui, mais je ne crois jamais ces choses-là. D'ailleurs, la vie privée des autres ne me regarde pas. Il m'a fait l'effet d'un cœur sensible, d'un homme bien cultivé. » Alors la princesse de Parme parla de Mademoiselle d'Oloron. Dans le milieu des Guermantes, on s'attendrissait sur la noblesse de cœur de Monsieur de Charlus, qui, bon comme il avait toujours été, faisait le bonheur d'une jeune fille pauvre et charmante. Et le duc de Guermantes, souffrant de la réputation de son frère, laissait entendre que, si beau que cela fût, c'était fort naturel. « Je ne sais pas si je me fais bien entendre. Tout est naturel dans l'affaire, » disait-il maladroitement à force d'habileté. Mais son but était d'indiquer que la jeune fille était une enfant de son frère qu'il reconnaissait. Du même coup, cela expliquait Jupien. La princesse de Parme insinua cette version pour montrer à Le Grandin qu'en somme, le jeune Cambremer épouserait quelque chose comme Mademoiselle de Nantes, une de ces bâtardes de Louis XIV, qui ne furent dédaignées ni par le duc d'Orléans, ni par le prince de Conti. Ces deux mariages, dont nous parlions déjà avec ma mère dans le train qui nous ramenait à Paris, eurent sur certains des personnages qui ont figuré jusqu'ici dans ce récit des effets assez remarquables. D'abord sur le grand dame. Inutile de dire qu'il entra en ouragan dans l'hôtel de Monsieur de Charlus, absolument comme dans une maison mal famée où il ne faut pas être vu. Et aussi, tout à la fois pour montrer sa bravoure et cacher son âge. Car nos habitudes nous suivent, même là où elles ne nous servent plus à rien. Et presque personne ne remarqua qu'en lui disant bonjour, Monsieur de Charlus lui adressa un sourire difficile à percevoir, plus encore à interpréter. Ce sourire était pareil en apparence, et au fond, était exactement l'inverse de celui que deux hommes, qui ont l'habitude de se voir dans la bonne société, échangent si par hasard ils se rencontrent dans ce qu'ils trouvent un mauvais lieu. Par exemple, l'Élysée, où le général de Frobertville, quand il y rencontrait jadis Swann, avait en l'apercevant le regard d'ironique et mystérieuse complicité de deux habitués de la princesse des Laumes qui se commettaient chez Monsieur Grévy. Le grandin cultivait obscurément, depuis bien longtemps, et dès le temps où j'allais tout enfant passer à Combray mes vacances, des relations aristocratiques, productives, tout au plus d'une invitation isolée à une villégiature inféconde. Tout à coup, le mariage de son neveu étant venu rejoindre entre eux ces tronçons lointains, le grandin eut une situation mondaine à laquelle, rétroactivement, ses relations anciennes, avec des gens qui ne l'avaient fréquenté que dans le particulier, mais intimement, donnèrent une sorte de solidité. Des dames, à qui on croyait le présenter, racontait que depuis 20 ans, il passait 15 jours à la campagne chez elle, et que c'était lui qui leur avait donné le beau baromètre ancien du petit salon. Il avait par hasard été pris dans des « groupes » où figuraient des ducs qui lui étaient apparentés. Or, dès qu'il eut cette situation mondaine, il cessa d'en profiter. Ce n'est pas seulement parce que, maintenant qu'on le savait reçu, il n'éprouvait plus de plaisir à être invité. C'est que des deux vices, qui se l'étaient longtemps disputés, le moins naturel, le snobisme, cédait la place à un autre moins factice, puisqu'il marquait du moins une sorte de retour, même détourné, vers la nature. Sans doute, ils ne sont pas incompatibles, et l'exploration d'un faubourg peut se pratiquer en quittant le raout d'une duchesse. Mais le refroidissement de l'âge détournait le grandin de cumuler tant de plaisirs, de sortir autrement qu'à bon escient, et aussi rendait pour lui ceux de la nature assez platoniques, consistant surtout en amitié, en causeries qui prennent du temps, et lui faisait passer presque tout le sien dans le peuple, lui en laissant peu pour la vie de société. Madame de Cambremer elle-même devint assez indifférente à l'amabilité de la duchesse de Guermantes. Celle-ci, obligée de fréquenter la marquise, s'était aperçue, comme il arrive chaque fois qu'on vit davantage avec des êtres humains, c'est-à-dire mêlés de qualités qu'on finit par découvrir et de défauts auxquels on finit par s'habituer, que Madame de Cambremer était une femme douée d'une intelligence et pourvue d'une culture que, pour ma part, j'appréciais peu, mais qui parurent remarquables à la duchesse. Elle vint donc souvent, à la tombée du jour, voir Madame de Cambremer et lui faire de longues visites. Mais le charme merveilleux que celle-ci se figurait exister chez la duchesse de Guermantes s'évanouit dès qu'elle s'en vit recherchée, et elle la recevait plutôt par politesse que par plaisir. Un changement plus frappant se manifesta chez Gilberte. À la fois symétrique et différent de celui qui s'était produit chez Swann Marié. Certes, les premiers mois, Gilberte avait été heureuse de recevoir chez elle la société la plus choisie. Ce n'est sans doute qu'à cause de l'héritage qu'on invitait les amis intimes auxquels tenait sa mère, mais à certains jours seulement, où il n'y avait qu'elle, enfermés à part, loin des gens chics. Et comme si le contact de Madame Bontemps ou de Madame Cottard avec la princesse de Guermantes ou la princesse de Parme eût pu, comme celui de deux poudres instables, produire des catastrophes irréparables. Néanmoins, les Bontemps, les Cottard et autres, quoique déçus de dîner entre eux, étaient fiers de pouvoir dire « Nous avons dîné chez la marquise de Saint-Loup ». D'autant plus qu'on poussait quelquefois l'audace jusqu'à inviter avec eux Madame de Marsantes, qui se montrait véritable grande dame, avec un éventail d'écailles et de plumes, toujours dans l'intérêt de l'héritage. Elle avait seulement soin de faire de temps en temps l'éloge des gens discrets, qu'on ne voit jamais que quand on leur fait signe, avertissement moyennant lequel elle adressait aux bons entendeurs du genre Cottard, Bontemps, etc., son plus gracieux et hautain salut. Peut-être j'eusse préféré être de ces séries-là, mais Gilberte, pour qui j'étais maintenant surtout un ami de son mari et des Guermantes, et qui, peut-être bien dès Combray, où mes parents ne fréquentaient pas sa mère, m'avait, à l'âge où nous n'ajoutons pas seulement tel ou tel avantage aux choses, mais où nous les classons par espèces, doués de ce prestige qu'on ne perd plus ensuite, considérait ces soirées-là comme indignes de moi, et quand je partais me disait « J'ai été très contente de vous voir, mais venez plutôt après-demain, vous verrez ma tante Guermantes, Madame de Poix. Aujourd'hui c'était des amis de maman, pour faire plaisir à maman. » Mais ceci ne dura que quelques mois, et très vite, tout fut changé de fond en comble. Était-ce parce que la vie sociale de Gilberte devait présenter les mêmes contrastes que celle de Swann? En tout cas, Gilberte n'était que depuis peu de temps marquise de Saint-Loup, et bientôt après, comme on le verra, duchesse de Guermantes, que, ayant atteint ce qu'il y avait de plus éclatant et de plus difficile, elle pensait que le nom de Saint-Loup s'était maintenant incorporé à elle comme un émail mordoré, et que, qui qu'elle fréquentât, désormais elle resterait pour tout le monde marquise de Saint-Loup. Ce qui était une erreur, car la valeur d'un titre de noblesse, aussi bien que de bourse, monte quand on le demande et baisse quand on l'offre. Tout ce qui nous semble impérissable tend à la destruction. Une situation mondaine, tout comme autre chose, n'est pas créée une fois pour toutes. Mais, aussi bien que la puissance d'un empire, se reconstruit à chaque instant par une sorte de création perpétuellement continue, ce qui explique les anomalies apparentes de l'histoire mondaine ou politique au cours d'un demi-siècle. La création du monde n'a pas eu lieu au début, elle a lieu tous les jours. La marquise de Saint-Loup se disait « Je suis la marquise de Saint-Loup ». Elle savait qu'elle avait refusé la veille trois dîners chez des duchesses. Mais si, dans une certaine mesure, son nom relevait le milieu aussi peu aristocratique que possible qu'elle recevait, par un mouvement inverse, le milieu que recevait la marquise dépréciait le nom qu'elle portait. Rien ne résiste à de tels mouvements. Les plus grands noms finissent par succomber. Swann n'avait-il pas connu une duchesse de la maison de France dont le salon, parce que n'importe qui y était reçu, était tombé au dernier rang? Un jour que la princesse des Laumes était allée par devoir passer un instant chez cette altesse, où elle n'avait trouvé que des gens de rien, en entrant ensuite chez Madame le Roi, elle avait dit à Swann et au marquis de Modène « Enfin je me retrouve en pays ami. Je viens de chez Madame la Duchesse de X il n'y avait pas trois figures de connaissance. Partageant, en un mot, l'opinion de ce personnage d'opérette qui déclare « Mon nom me dispense, je pense, d'en dire plus long. » Gilberte se mit à afficher son mépris pour ce qu'elle avait tant désiré, à déclarer que tous les gens du faubourg Saint-Germain étaient idiots, infréquentables, et, passant de la parole à l'action, cessa de les fréquenter. Des gens qui n'ont fait sa connaissance qu'après cette époque, et pour leur début auprès d'elle, l'ont entendu, devenue duchesse de Guermantes, se moquer drôlement du monde qu'elle eût pu si aisément voir, la voyant ne pas recevoir une seule personne de cette société, et si l'une, voire la plus brillante, s'aventurait chez elle, lui bâillir ouvertement au nez. Rougissent rétrospectivement d'avoir pu, eux, trouver quelque prestige au grand monde, et n'oseraient jamais confier ce secret humiliant de leur faiblesse passée à une femme qu'ils croient, par une élévation essentielle de sa nature, avoir été de tout temps incapable de comprendre celle-ci. Ils l'entendent railler avec tant de verve les ducs, et la voix, chose plus significative, mettre si complètement sa conduite en accord avec ses railleries. Sans doute ne songe-t-il pas à rechercher les causes de l'accident qui fit de Mademoiselle Swann Mademoiselle de Forcheville, et de Mademoiselle de Forcheville la marquise de Saint-Loup, puis la duchesse de Guermantes. Peut-être ne songe-t-il pas non plus que cet accident ne servirait pas moins par ses effets que par ses causes à expliquer l'attitude ultérieure de Gilberte. La fréquentation des roturiers n'étant pas tout à fait conçue de la même façon qu'elle l'eût été par Mademoiselle Swann, par une dame à qui tout le monde dit « Madame la Duchesse » et ces duchesses qui l'ennuient « Ma cousine ». On dédaigne volontiers un but qu'on n'a pas réussi à atteindre, ou qu'on a atteint définitivement. Et ce dédain nous paraît faire partie des gens que nous ne connaissions pas encore. Peut-être, si nous pouvions remonter le cours des années, les trouverions-nous déchirés, plus frénétiquement que personne, par ces mêmes défauts qu'ils ont réussi si complètement à masquer ou à vaincre, que nous les estimons incapables non seulement d'en avoir jamais été atteints eux-mêmes, mais même de les excuser jamais chez les autres, faute d'être capables de les concevoir. D'ailleurs, bientôt le salon de la nouvelle marquise de Saint-Loup prit son aspect définitif, au moins au point de vue mondain, car on verra quel trouble devait y sévir par ailleurs. Or, cet aspect était surprenant en ceci. On se rappelait encore que les plus pompeuses, les plus raffinées des réceptions de Paris, aussi brillantes que celles de la princesse de Guermantes, étaient celles de Mademoiselle de Marsante, la mère de Saint-Loup. D'autre part, dans les derniers temps, le salon d'Odette, infiniment moins bien classé, n'en avait pas moins été éblouissant de luxe et d'élégance. Or, Saint-Loup, heureux d'avoir, grâce à la grande fortune de sa femme, tout ce qu'il pouvait désirer de bien-être, ne songeait qu'à être tranquille après un bon dîner où des artistes venaient lui faire de la bonne musique. Et ce jeune homme, qui avait paru à une époque si fier, si ambitieux, invitait à partager son luxe des camarades que sa mère n'aurait pas reçus. Gilberte, de son côté, mettait en pratique la parole de Swann. « La qualité m'importe peu, mais je crains la quantité. » Et Saint-Loup, fort à genoux devant sa femme, et parce qu'il l'aimait et parce qu'il lui devait précisément ce luxe extrême, n'avait garde de contrarier ses goûts si pareils aux siens. De sorte que les grandes réceptions de Madame de Marsante et de Madame de Forcheville, données pendant des années surtout en vue de l'établissement éclatant de leurs enfants, ne donnèrent lieu à aucune réception de Monsieur et de Madame de Saint-Loup. Ils avaient les plus beaux chevaux pour monter ensemble à cheval, le plus beau yacht pour faire des croisières, mais où on n'emmenait que 2 invités. À Paris, on avait tous les soirs 3 ou 4 amis à dîner, jamais plus. De sorte que, par une régression imprévue, mais pourtant naturelle, chacune des 2 immenses volières maternelles avait été remplacée par un nid silencieux. La personne qui profita le moins de ces 2 unions fut la jeune mademoiselle d'Oloron, qui, déjà atteinte de la fièvre typhoïde le jour du mariage religieux, se traîna péniblement à l'église et mourut quelques semaines après. La lettre de faire-part, qui fut envoyée quelque temps après sa mort, mêlait à des noms comme celui de Jupien presque tous les plus grands de l'Europe, comme ceux du vicomte et de la vicomtesse de Montmorency, de S.A.R., la comtesse de Bourbon-Soissons, du prince de Modène-Est, de la vicomtesse des Duméa, de Lady Essex, etc., etc. Sans doute, même pour qui savait que la défunte était la nièce de Jupien, le nombre de toutes ces grandes alliances ne pouvait surprendre. Le tout, en effet, est d'avoir une grande alliance. Alors, le casus federis venant à jouer, la mort de la petite roturière met en deuil toutes les familles princières de l'Europe. Mais bien des jeunes gens des nouvelles générations, et qui ne connaissaient pas les situations réelles, outre qu'ils pouvaient prendre Marie-Antoinette d'Oloron, marquise de Cambremer, pour une dame de la plus haute naissance, auraient pu commettre bien d'autres erreurs en lisant cette lettre de faire-part. Ainsi, pour peu que leurs randonnées à travers la France leur eussent fait connaître un peu le pays de Combray, en voyant que le comte de Méséglise faisait part dans les premiers et tout près du duc de Guermantes, ils auraient pu n'éprouver aucun étonnement. Le côté de Méséglise et le côté de Guermantes se touchent, vieille noblesse de la même région, peut-être alliée depuis des générations, eussent-ils pu se dire. Qui sait? C'est peut-être une branche des Guermantes qui porte le nom de comte de Méséglise. Or, le comte de Méséglise n'avait rien à voir avec les Guermantes et ne faisait même pas part du côté Guermantes, mais du côté Cambremer, puisque le comte de Méséglise, qui, par un avancement rapide, n'était resté que 2 ans le grandin de Méséglise, c'était notre vieil ami le grandin. Sans doute. Faux titre pour faux titre, il en était peu qui eussent pu être aussi désagréables aux Guermantes que celui-là. Ils avaient été alliés autrefois avec les vrais comtes de Méséglise, desquels il ne restait plus qu'une femme, fille de gens obscurs et dégradés, mariée elle-même à un gros fermier enrichi de ma tante, nommé Ménager, qui lui avait acheté Mirougrin et se faisait appeler maintenant Ménager de Mirougrin, de sorte que, quand on disait que sa femme était née de Méséglise, on pensait qu'elle devait être plutôt née à Méséglise, et qu'elle était de Méséglise comme son mari de Mirougrin. Tout autre titre faux eût donné moins d'ennui aux Guermantes, mais l'aristocratie sait les assumer, et bien d'autres encore. Du moment qu'un mariage, jugé utile à quelque point de vue que ce soit, est en jeu. Couvert par le duc de Guermantes, le grandin fut pour une partie de cette génération-là, et sera pour la totalité de celle qui la suivra, le véritable comte de Méséglise. Une autre erreur encore, que tout jeune lecteur peu au courant eût été porté à faire, eût été de croire que le baron et la baronne de Forcheville faisait part, en tant que parents et beaux-parents du marquis de Saint-Loup, c'est-à-dire du côté Guermantes. Or, de ce côté, il n'avait pas à figurer, puisque c'était Robert qui était parent des Guermantes, et non Gilberte. Non, le baron et la baronne de Forcheville, malgré cette fausse apparence, figuraient du côté de la mariée. Il est vrai, et non du côté Cambremer, à cause non pas des Guermantes, mais de Jupien, dont notre lecteur doit savoir qu'Odette était la cousine. Toute la faveur de monsieur de Charlus était portée, dès le mariage de sa fille adoptive, sur le jeune marquis de Cambremer. les goûts de celui-ci, qui étaient pareils à ceux du baron, du moment qu'il n'avait pas empêché qu'il le choisît pour mari de mademoiselle d'Oloron, ne firent naturellement que le lui faire apprécier davantage quand il fut veuf. Ce n'est pas que le marquis n'eût d'autres qualités qui en faisaient un charmant compagnon pour monsieur de Charlus. Mais même quand il s'agit d'un homme de haute valeur, c'est une qualité que ne dédaigne pas celui qui l'admet dans son intimité et qui le lui rend particulièrement commode s'il sait jouer aussi le whist. L'intelligence du jeune marquis était remarquable. Et, comme on disait déjà à Féterne, où il n'était encore qu'enfant, il était tout à fait du côté de sa grand-mère, aussi enthousiaste, aussi musicien. Il en reproduisait aussi certaines particularités, mais celles-là plus par imitation, comme toute la famille, que par atavisme. C'est ainsi que, quelque temps après la mort de sa femme, ayant reçu une lettre signée Léonore, prénom que je ne me rappelais pas être le sien, je compris seulement qui m'écrivait quand j'eus lu la formule finale « Croyez à ma sympathie vraie ». Le « vrai » mis à sa place ajoutait au prénom Léonore le nom de Cambremer.